Nos mémoires. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Marie-Gwen Carichon.
Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle émission Nos mémoires. Les émissions Nos mémoires, comme vous le savez, s'attachent à mettre en lumière et à expliquer les textes anciens qui viennent d'être réédités, ces textes qui ont fondé notre histoire, notre civilisation. Et aujourd'hui, nous allons parler d'écrits, mais un peu particuliers, des écrits qui appartiennent à un genre littéraire qui a connu sa période de gloire au Moyen Âge. Je parle des écrits spirituels. Qu'est-ce qu'un écrit spirituel ? Un texte qui parle de Dieu, mais pas seulement, puisque ce texte invite l'âme, l'esprit de l'homme, à rejoindre le divin. Les écrits spirituels appellent à une rencontre. Écoutons ce que dit Guigues de Le Chartreux au sujet de cette méditation de ces écrits spirituels. La contemplation, qui est donc encouragée par la lecture de ces écrits, est une élévation en Dieu de l'esprit qui est suspendue au-dessus de lui et goûte les joies de la douceur éternelle. La lecture recherche les douceurs de la vie bienheureuse, la méditation la trouve, la prière la demande, la contemplation les goûte. C'est dans une des lettres de Guigues le Chartreux qu'on trouve ce texte, une lettre qu'il donnait en fait aux moines pour apprendre à méditer et à méditer à partir de ses écrits et de la Bible. Ses écrits spirituels, enfin une partie, viennent d'être édités chez Gallimard dans la belle édition de la Pléiade et ont été dont la publication a été dirigée par Cédric Giraud, que nous recevons aujourd'hui. Bonjour Cédric Giraud.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Vous êtes ancien élève de l'école des Chartes, vous êtes historien, médiéviste et latiniste, ce qui explique pourquoi vous êtes totalement apte à pouvoir commenter ces écrits qui étaient souvent en latin, et vos publications donc s'appuient avec rigueur sur les textes anciens. Vous êtes également directeur de la bibliothèque de l'école des Chartres et professeur. On va commencer par une question de vocabulaire pour essayer un petit peu de déblayer des termes qui peuvent vous paraître sombres, nous paraître sombres. Quelle est la différence entre la contemplation et la méditation ? Pourquoi la prière ? Et comment est-ce qu'on peut prier avec la lecture ?
Alors, merci de me poser cette question, effectivement, qui permet de préciser un certain nombre de points. Et le bel extrait que vous avez cité de la lettre de Guigues II pose assez bien la définition. Guigues II est contemporain d'une époque où l'on va définir justement la nature de ces exercices spirituels. Ils existaient avant, hein. Les moines n'ont pas attendu le XIIe siècle pour lire, méditer ou contempler. Mais c'est avec Guigues II et d'autres que ces définitions vont se préciser et vont surtout donner lieu à un véritable ordonnancement entre elles. Donc la première étape, effectivement, c'est la lecture, qui consiste dans une lecture le plus souvent à voix haute, parfois silencieuse, mais à cette époque on a plutôt une lecture à voix haute, qui permet de prendre connaissance d'un texte et de le savourer. Cette lecture savoureuse du texte mène à la méditation, qui est la compréhension du sens même du texte, et à travers cette compréhension savoureuse, les moines de l'époque parlent d'une manducation. C'est un texte qu'on va chercher à savourer à tel point qu'on finit par l'avaler, hein, comme une nourriture spirituelle. Eh bien, cette méditation qui fait comprendre le sens profond du texte, elle mène à la prière, donc ce dialogue, ce cœur à cœur avec Dieu auquel vous avez fait allusion, et cette prière elle-même, quand elle est réussie, alors ça marche pas à tous les coups, elle mène à la contemplation, c'est-à-dire une forme de regard amoureux porté sur Dieu. La grande différence, si vous voulez, entre toutes ces activités, ces quatre activités, et notamment entre méditation et contemplation sur lesquelles vous m'interrogiez, c'est la part qu'y prend l'homme. Si dans la méditation, l'homme est très actif, il cherche à comprendre, dans la contemplation, il est plus passif, il regarde.
Alors, comment on définit également la spiritualité, puisque c'est quand même un mot qui est dans le titre de votre ouvrage.
Alors, vaste question, là aussi, qui peut prêter à débat. De nos jours, hein, la spiritualité recouvre bien des choses, depuis des formes de développement personnel parfois dénuées de toute référence à une transcendance, hein, sans Dieu, ou à des textes qui, eux, se réclament d'une tradition religieuse, qu'elle soit chrétienne, d'ailleurs, juive ou musulmane. pour moi, la spiritualité, ou pour les médiévaux, disons, c'est peut-être plus important que mon propre avis, pour les gens du Moyen-Âge, la spiritualité, c'est une activité qui va transformer l'homme. Donc, elle est héritée de ce qu'on appelle dans l'Antiquité la métanoïa, c'est-à-dire cette conversion, ce changement qui fait passer de l'homme d'un état animal, c'est-à-dire qui ne goûte que les choses de la terre, à un état spirituel, c'est-à-dire une ouverture qui porte justement la contemplation dont on parlait tout à l'heure. Donc les textes spirituels, ce sont les textes qui vont favoriser ce processus de transformation intérieure et de changement. Ce ne sont pas juste des textes qu'on lit pour s'informer, mais ce sont des textes qui sont censés avoir une action profonde et intérieure.
Si on reprend les schémas commodes, quand on sépare l'Antiquité du Moyen-Âge, je vais réutiliser ces termes, qu'est-ce qui va distinguer la méditation, les écrits spirituels du Moyen-Âge des écrits qui ont été publiés durant l'Antiquité?
Bien sûr, parce que, évidemment, la spiritualité n'est pas inventée par le Moyen-Âge. En revanche, ce qu'invente sans doute le Moyen-Âge, et c'est pour ça que je commence avec un auteur qui est à cheval sur les 11e et 12e siècles, qui est Anselme de Canterbury, saint Anselme. Ce qu'invente donc le Moyen-Âge, c'est une forme littéraire, brève, la méditation, dont le but est à la fois d'éclairer l'intelligence et d'enflammer la sensibilité. Et ce texte, ce genre littéraire, le genre méditatif, est vraiment tourné vers la subjectivité. Ce qui est relativement neuf par rapport justement à la période antique, qui va chercher plutôt à utiliser les mots de la Bible, le psautier notamment, pour prier et entrer en communication avec Dieu. La nouveauté peut-être du Moyen-Âge, c'est de développer un genre littéraire centré sur le lecteur, et donc qui cherche à établir cette communication intime entre un homme qui prie et Dieu.
C'est-à-dire que pour les chrétiens du Moyen-Âge, la Bible ne suffit pas?
Alors, c'est pas qu'elle ne suffit pas, mais c'est que on va chercher à développer des genres littéraires qui vont s'appuyer sur la Bible. Si vous regardez les notes des textes que j'ai traduits, la Bible, elle est omniprésente. Mais on va considérer que l'auteur va chercher à nouer un dialogue plus intime et qui fait droit à la subjectivité du lecteur. Et donc, on va prolonger le texte biblique, ça ne le remplace absolument pas, puisque tous ces auteurs continuent à dire l'office et à être baignés dans une culture biblique, mais on va chercher à donner une inflexion plus personnelle à la prière.
Anselme de Canterbury, que vous venez d'évoquer, c'est le premier grand écrivain spirituel.
Oui, on peut vraiment le considérer. Certains historiens parlent même d'une révolution anselmienne pour désigner la manière dont il se sert des écrits pour établir une communication avec Dieu et pour donner des prières qui sont beaucoup plus affectives que précédemment et qui s'adressent à la fois à Dieu, mais aussi au Christ, à la Vierge, à la Croix, à l'Eucharistie, à Dieu présent dans l'Eucharistie. Donc il y a vraiment des thématiques aussi qui sont propres à cette époque.
Et Jean Cassien, lui, il va donner comme conseil pour la méditation, pour la prière, la récitation d'une même formule. Oui. Est-ce que c'est une méthode qui reste durant tout le Moyen-Âge?
Tout à fait. Alors, Jean Cassien, qui est effectivement un moine de l'époque tardo-antique, qui fait la transition entre, d'une part, l'Orient et l'Occident, mais aussi entre l'Antiquité et le Moyen-Âge, donne effectivement cette récitation d'un verset psalmique comme méthode de la contemplation. Ça reste tout à fait une méthode médiévale. En effet, les écrits spirituels, comme vous me l'avez fait remarquer, complète la Bible, mais ne la remplace pas, c'est certain.
Comment Anselme de Canterbury, on revient donc à ce grand auteur, il a commencé en fait par... quel a été son premier livre et est-ce qu'on l'a écouté? Est-ce qu'il y a eu des méfiances par rapport à cette nouvelle manière de prier?
Alors, pas du tout. Au contraire, il a été très soutenu. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que la première version de son œuvre, de cette œuvre spirituelle, puisqu'elle est composée par Strat, est faite à la demande, la première version, à la demande d'un public plutôt féminin, qui lui demande comment prier. Donc, dans un premier temps, il va envoyer un florilège des psaumes, ce qui était la manière, si on veut, antique et du haut Moyen-Âge de prier. Donc, on va utiliser les mots mêmes de la Bible. Et puis, dans un second temps, à ces florilèges des psaumes, il va joindre des prières. Et ces prières, on en a un écho direct parce qu'on a des correspondances de l'époque qui parlent de ces textes, y compris des correspondances adressées à Anselme, ont un succès immédiat parce qu'elles répondent à une demande. Finalement, ce besoin d'une prière qui ne soit plus simplement adossée à la Bible, mais aussi à un rapport personnel à Dieu, entre en résonance avec les demandes de la société et notamment celles des femmes de l'aristocratie.
Donc, on écrit la spiritualité pour les femmes de l'aristocratie et non pas pour les moines comme on pourrait l'imaginer plus naturellement?
Alors les deux, si je puis dire, puisqu'en effet, ces textes qui étaient à l'origine, la commande était une commande aristocratique, ont un succès aussi énorme dans les milieux monastiques. La meilleure preuve en est que dès les premières décennies du XIIe siècle, on se met à écrire à la manière de saint Anselme, et on a donc des recueils de prières à la fois authentiques et attribuées à Anselme, qui pour l'historien sont le signe le plus patent du succès de cette littérature qui se répand comme une traînée de poudre dans les cloîtres depuis l'Angleterre jusqu'en Italie du Sud dès les années 1150.
Donc si tous ces écrits se répandent, on suppose qu'il y en avait beaucoup, puisque la majorité des peuples étaient quand même chrétiens au Moyen-Âge. Comment vous, Cédric Giraud, vous avez sélectionné les auteurs? Il y en a 15 dans votre ouvrage, et puis les textes des auteurs.
Alors, c'est effectivement un des enjeux d'une anthologie, puisqu'on choisit des choses, et choisir, c'est évidemment laisser de côté. Mon but était de rendre compte de ce qu'était la spiritualité médiévale, non pas à l'aune de notre propre goût, de notre propre choix, de ce que la culture commune a retenu, mais en partant du goût des médiévaux. Et donc, je me suis intéressé à une source que les historiens avaient peu utilisée, qui sont les listes de lectures recommandées. Dès l'époque médiévale, certains maîtres spirituels vont chercher à établir des listes de bibliographies. On fait ça pour nos étudiants en tant que professeur, on leur dit qu'est-ce qu'il faut lire au cours de l'année pour se former. Eh bien, c'est la même chose pour la spiritualité. Dès le XIIe siècle, on a des moines, formateurs de novices, très souvent, ce sont souvent des maîtres des novices, qui vont établir des bibliographies en disant, voilà, si tu veux te former à la vie spirituelle, il y a une dizaine d'ouvrages à lire. Et ce qui est très intéressant, c'est que du XIIe jusqu'au XVe siècle, ces listes sont relativement compactes et définissent une espèce de ce qu'on pourrait appeler un palmarès des auteurs spirituels qu'il fallait avoir consultés. Et c'est en m'appuyant donc sur ces sources, ces bibliographies spirituelles, si l'on veut, que j'ai établi à la fois un choix d'auteurs et de textes, en m'appuyant donc d'une part sur ces listes, mais aussi sur la circulation des manuscrits. Parce que c'est comme avec nos étudiants, c'est pas parce qu'on leur dit de lire quelque chose qu'ils le font. Donc il fallait vérifier que ces prescriptions étaient suivies des faits. Et donc, je me suis appuyé sur les éditions critiques qui montraient que telle œuvre avait eu un grand succès.
Et alors, des écrits spirituels, il y en a un par monastère. Comment est-ce que ça fonctionne pour la diffusion du livre?
Alors, on a une époque, à partir du XIIe, XIIIe siècle, que les historiens qualifient de révolution de l'écrit. Donc, on a une multiplication de l'écrit dans tous les domaines, aussi bien pour les chartes, pour les documents de la vie pratique, que pour les livres qui consignent des textes qu'on pourrait considérer comme plus littéraires. Et donc, ces écrits spirituels sont diffusés par dizaines, par centaines, dans certains cas par milliers. Et donc, dans tous les monastères, on a plusieurs exemplaires de différents textes spirituels. Donc, il ne faut pas imaginer simplement un texte spirituel, mais on a plusieurs manuscrits de spiritualité, et chaque manuscrit contient plusieurs auteurs. Une des caractéristiques aussi de ces textes étant d'être généralement relativement courts.
Alors j'ai vu qu'il y avait donc des textes de Thomas d'Aquin, mais Thomas d'Aquin, on pense avant tout au théologien, au philosophe, pas à celui qui a écrit de la spiritualité, puisque l'écrit spirituel, c'est pas une réflexion intellectuelle. Alors il a écrit de la spiritualité, ou est-ce qu'on peut méditer à partir de la théologie?
Alors, c'est effectivement un auteur que je tenais à intégrer, puisque les recherches assez récentes, notamment celles du Père Thorel, ont mis en valeur Thomas d'Aquin comme un auteur spirituel. C'est-à-dire un auteur qui, même quand il écrit de la théologie scolastique, c'est-à-dire de la théologie destinée à un enseignement universitaire, a pour but de faire contempler, méditer son auditoire. Donc certes, les extraits de la Somme théologique que j'inclus dans le volume sont dans un style beaucoup plus abstrait que les autres textes, mais la vocation de ces textes est aussi de nourrir une approche contemplative et pas simplement intellectuelle de la vie chrétienne.
Comment distinguer l'approche dans la méditation intellectuelle de la vraie rencontre avec Dieu? Est-ce que c'est difficile pour les chrétiens de faire cette distinction, ou est-ce qu'elle est très naturelle?
Ben, disons que pour les gens de l'époque médiévale, je crois que la distinction n'existe pas vraiment pour les lecteurs du Moyen-Âge. Finalement, il y a une solidarité que nous avons un peu perdue entre une théologie qui serait pour nous spéculative et une spiritualité qui serait, là aussi pour nous, plus affective. En fait, pour les gens du Moyen-Âge, l'affectivité est une forme de connaissance. Ils le disent parfois, amor intellectus est, aimer c'est comprendre. Et donc, il n'y a pas... C'est nos séparations, nous, même académiques, qui opposent les choses, là où les gens du Moyen-Âge ont tendance à pouvoir lire la théologie aussi comme une forme de rapport affectif ou comme un support de la prière.
À partir de quand les écrits spirituels vont être suffisamment popularisés pour que chacun puisse au moins en avoir lu une ou deux fois dans sa vie?
Alors, on peut considérer que c'est le XIIIe siècle, notamment l'apparition des ordres mendiants, donc les franciscains et les dominicains, qui vont populariser ces écrits. Mon corpus est un corpus latin, donc c'était un choix de prendre les textes écrits en latin, puisque ce sont les textes fondateurs, mais tous les textes, ou quasiment tous les textes qui sont ici traduits depuis le latin, ont fait l'objet de traductions dès l'époque médiévale. Et en fait, dès le XIIIe siècle, ces écrits spirituels ne sont pas simplement accessibles à un public de lettrés qui lirait le latin, mais aussi aux simples gens, même aux simples paysans, dans certains cas, ou des gens très simples, qui pouvaient avoir accès à ces textes via des traductions, ou via même la lecture collectif, puisqu'il ne faut pas oublier que un texte agit pas seulement parce qu'il est lu, mais aussi parce qu'il fait lu de manière personnelle, mais aussi parce qu'il fait l'objet d'une lecture communautaire, ce qui était relativement fréquent à l'époque médiévale. Donc dès le XIIIe siècle, et c'est un phénomène qui s'accélère au XIVe et XVe siècle, ces écrits spirituels en langue originale, c'est-à-dire en latin, ou bien plus souvent traduits, ont touché un très vaste public.
Et alors, pour revenir sur cette notion du livre, vous expliquez dans votre très belle introduction qu'à partir du XIIe siècle, je vous cite, conscience, cœur, expérience intérieure furent conçus comme des livres qui devaient être écrits. L'âme est un livre.
Oui, alors effectivement, cette métaphore prend de l'ampleur à partir du XIIe siècle, dans un contexte justement qui est celle de cette mutation de l'Occident qui bascule dans une civilisation de l'écrit, et donc le livre devient une image qui permet de synthétiser toute la vie de l'âme. En effet, on va concevoir la conscience, le cœur, comme un livre qui doit être inscrit, évidemment de manière spirituelle, par la vérité. Et cette image, elle est extrêmement populaire, on la retrouve dans l'art, et on a même, signe, si vous voulez, de la popularisation de cette image et du grand crédit qu'elle va recevoir, des manuscrits qui ont une forme de cœur. Donc la boucle est bouclée, hein. Le cœur est un livre, mais le livre lui-même prend la forme d'un cœur.
Il y a une vraie inventivité, en fait, à partir de l'écrit spirituel. On pourrait trouver ça un peu aride. Et en fait, il y a une vraie créativité, une vraie volonté de rendre accessible le divin.
Tout à fait. Et pour ce faire, ces écrits emploient une langue extrêmement affective. Et donc là aussi, c'est un point qui me semblait justifier l'entrée de ces écrits dans la Pléiade. C'est la qualité littéraire de ces écrits qui, loin d'être aride ou loin d'être abstrait, au contraire, joue sur la sensibilité. Et donc, sont des textes extrêmement vivants, encore pour le lecteur contemporain.
Et alors, ces textes, en jouant sur la sensibilité, vont faire appel à quel imaginaire mental ? Qu'est-ce qu'on va essayer de susciter comme image chez le lecteur pour élever, en fait, son cœur ?
Alors, des images surtout affectives, donc ça joue beaucoup sur l'affectivité, parfois la peur, donc on a des tableaux de l'enfer qui sont absolument effrayants, mais plus souvent l'admiration, l'amour, avec en contrepoint des descriptions du paradis qui sont des morceaux de lyrisme extrêmement bien écrits, puisque cette prose spirituelle est souvent une prose rimée en latin, et donc j'ai essayé de rendre le plus possible ces effets sonores qui nous prouvent la qualité littéraire de ces écrits spirituels.
Tous ces écrits ont été écrits en latin ?
Oui. Alors, tous ceux que j'ai retenus ont été écrits en latin, et tous ont été écrits avec un soin, puisque concevoir l'œuvre spirituelle comme une œuvre d'art fait partie de la conception, si vous voulez, médiévale du beau, qui est un des aspects du divin.
Et alors, pour rebondir, Cédric Giraud, sur cette évocation de l'amour charnel, de l'amour conjugal, qui fait écho, en fait, à l'amour divin, j'aimerais que vous nous expliquiez ce que Richard de Saint-Victor dit sur les degrés de charité. Mmh. Il va faire appel à notre sensibilité pour, en fait, de choses très charnelles, très concrètes, pour élever les cœurs des gens du Moyen-Âge à des sphères très spirituelles. Qu'est-ce qu'il dit ?
En effet, Richard de Saint-Victor utilise toutes les images du Cantique des Cantiques, donc la poitrine de l'épouse, sa chevelure, ses dents, toutes ces images de la beauté féminine, pour emmener ses lecteurs vers l'amour de Dieu. Et donc, il n'y a pas de peur, justement, de ces images ou de censure, comme on pourrait l'imaginer selon une lecture qui serait plutôt celle du XIXe siècle. Hein. Mais il y a en effet une célébration de la beauté comme un moyen de s'élever vers Dieu.
Et quels sont les autres imaginaires que vont invoquer ces auteurs pour parler aux gens du Moyen-Âge et les faire s'élever?
Alors très souvent, une des images les plus employées, qui est une image issue de l'Ancien Testament, est celle du temple. L'homme est un temple temple de la présence divine. Et donc, on a beaucoup d'appels à Dieu pour qu'il vienne habiter son temple. Donc, il y a toute une spiritualité de l'inhabitation divine qui est extrêmement forte et qui fait de l'homme la demeure, le récipient, le vase, le temple. Donc, on a tout un réseau de métaphores liées autour de la possession de l'âme par Dieu.
On a parlé donc de l'influence de l'Antiquité, de l'influence de la Bible qui est très présente. Est-ce que on retrouve aussi une influence orientale? Puisqu'aujourd'hui, quand on parle de méditation, on pense avant tout aux méditations orientales. Et est-ce qu'au Moyen-Âge, ils ont utilisé ces techniques un petit peu?
Alors, on a une influence orientale, mais qui est plutôt celle des pères du désert. Donc, c'est l'Égypte, hein, c'est déjà l'Orient. Et on a surtout une influence orientale à travers celui qu'on appelle le pseudo-Denis l'Aréopagite, donc qui est un auteur syrien qu'on place souvent au 5e siècle, et qui, lui, va influencer ses écrits dans le sens d'une forme de mystique, c'est-à-dire de contemplation de Dieu au-delà de toute qualité, de toute détermination. Donc là, l'inverse du mouvement que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire approcher Dieu par des images ou le dire à travers des mots qui sont propres aux hommes, mais au contraire, une version complètement abstraite de Dieu à travers une remontée vers le divin sans image. Alors, on est dans l'Orient, ces auteurs spirituels ne connaissent rien de plus oriental, si je puis dire, que l'Égypte et la Syrie. Hein. Ils n'ont pas accès à des textes qui seraient évidemment ceux de l'Inde ou d'autres régions.
Face à un texte, le chrétien du Moyen-Âge, comment il peut savoir si, entre guillemets, il fonctionne? Est-ce qu'il y a des étapes dans cette vie contemplative et quelles sont-elles?
Alors, ces étapes, on y a fait un peu allusion tout à l'heure. Ce sont ces degrés de la vie spirituelle depuis la lecture jusqu'à la contemplation. Et puis, les gens du Moyen-Âge ont distingué, dans la lignée d'ailleurs de l'Antiquité, de penseurs grecs comme Origène, trois états. On a un état des commençants, qui correspond d'ailleurs d'une certaine manière à la lecture. C'est celui de la découverte de ce qu'est la vie spirituelle, d'une forme encore de difficulté où l'homme doit combattre ses défauts. Un deuxième état, qui est l'état des progressants, où finalement on est plutôt dans la phase méditative, où on commence à se repérer dans ce que c'est cette vie spirituelle et ce qu'elle requiert. Et puis la troisième étape, qui est un état plutôt de perfection, où là, le croyant est dans une certaine forme d'union avec Dieu, étant entendu, et c'est fondamental, et ses écrits le donnent bien à comprendre, que ces étapes ne sont jamais acquises, et que ce n'est pas une progression linéaire, comme on peut d'ailleurs tous le savoir dans sa propre vie. Hein. On ne progresse jamais de manière, quelle que soit la matière ou l'activité concernée, de manière linéaire, mais il peut y avoir des retours en arrière qui sont même bons, disent nos textes spirituels, pour l'humilité. Donc, il y a trois grandes étapes. Hein, cette étape décommençant du perfectionnement et de la perfection, mais elles ne sont pas du tout linéaires dans leur déroulement.
Alors, c'est Saint Bonaventure qui parle, lui, d'une programmation de formation théologique en indiquant quels sont les auteurs qu'il faut lire pour avancer intellectuellement. Qu'est-ce qu'il dit exactement?
C'est ça. Alors, lui, il va distinguer effectivement des auteurs qui sont spécialisés dans tel type de réflexion. Donc effectivement, le pseudo-Denis qui sera plutôt utile à une lecture mystique des Écritures, Grégoire le Grand, Saint Grégoire, qui va aider à la vie morale, Saint Augustin, qui va aider à la compréhension de la Bible. Donc effectivement, dès l'époque médiévale, hein, on a aussi une typologie des lectures spirituelles. Les auteurs, même spirituels, ont une spécificité.
Dans votre ouvrage est séparé en quatre sections, qui correspondent un petit peu à des phases par rapport aux écrits spirituels et à leur évolution. Est-ce que vous pourriez nous donner ces quatre grandes périodes et qu'est-ce qui les caractérise?
Alors, la première période qui forme la première section du livre s'attache au 11e, 12e siècle, début du 13e siècle. C'est un peu ce que j'ai appelé les classiques de la spiritualité. Donc c'est la section dans laquelle j'ai réuni les œuvres qui ont formé le socle des lectures spirituelles de l'Occident chrétien, en m'intéressant donc à Anselme de Canterbury et à des textes qui ont circulé sous le nom d'Augustin et de Bernard de Clairvaux et qui ont été des succès vraiment. On en a pour certains plus de 700 manuscrits, donc c'est absolument considérable. Et ces textes-là servaient vraiment de lecture pour les novices. Donc j'ai voulu la mettre au début du volume pour, c'était un peu le portail, la porte d'entrée pour comprendre le reste. La deuxième section s'intéresse aux auteurs du XIIe siècle, ce que j'ai appelé l'école de la charité, donc des auteurs qui sont souvent des moines, comme les cisterciens, les chartreux, ou des chanoines, comme les auteurs de l'école de Saint-Victor, Hugues et Richard, et qui eux, dont la grande question est la question de l'amour, finalement. Comment faire naître, comment entretenir, comment nourrir l'amour de l'homme pour Dieu. Une troisième section s'attache au mouvement dont j'ai parlé précédemment, c'est-à-dire le moment où la spiritualité sort des cloîtres pour toucher un plus vaste public d'hommes et de femmes. C'est le XIIIe et le XIVe siècle, avec des auteurs qui sont plutôt des auteurs scolastiques, mais qui ont été aussi des prédicateurs. C'est le cas de Thomas d'Aquin, c'est le cas de Bonaventure, ou c'est le cas d'un prêtre séculier, Jean Gerson, qui a été chancelier de l'Université de Paris. Et enfin, la quatrième et dernière section s'intéresse à des auteurs d'un courant spirituel particulier qu'on appelle la Devotio Moderna, qui est un courant né dans le nord de l'Europe, dans les Pays-Bas actuels, et qui a pour but, là encore, de rendre la spiritualité accessible en se servant du livre de spiritualité. Et dans cette section, il y a notamment le fameux Thomas à Kempis, l'auteur de l'Imitation de Jésus-Christ, qui est resté jusqu'au XXe siècle un best-seller de la littérature spirituelle.
Et au XVe siècle, on arrête d'écrire la spiritualité ?
Alors, on n'arrête pas d'écrire de la spiritualité, mais on change de support avec l'invention de l'imprimerie, donc les enjeux sont un petit peu différents, et surtout, l'arrivée de la réforme protestante va changer un peu la donne, avec une confessionnalisation du livre de spiritualité, qui va devenir ce livre une œuvre de combat, et donc les enjeux sont différents, donc on quitte là le Moyen-Âge, et à un moment d'ailleurs où cette spiritualité médiale ne disparaît pas, puisqu'elle est encore éditée, et elle va nourrir aussi la spiritualité des ordres de la contre-réforme.
Ce style, qui est un vrai style littéraire, hein, les écrits spirituels, qui s'inspirent un peu de la Bible avec les métaphores, enfin des métaphores qui sont connues en fait dans l'Ancien Testament. Ce style littéraire, est-ce qu'il a été apprécié en tant que tel ? Est-ce que des poètes, je pense par exemple au 19e ou même aujourd'hui, s'en inspirent aujourd'hui pour écrire ?
Alors tout à fait, c'est un style qui est goûté dès l'époque. La meilleure preuve, j'en parlais pour Anselme de Canterbury, mais ça vaut aussi pour d'autres auteurs du volume, c'est que ce style a été imité. Ce qui est évidemment une forme d'hommage. Donc dès l'époque médiévale, on va écrire des textes à la manière d'eux, en imitant ces auteurs spirituels, parce qu'on apprécie ce style lyrique qui repose sur les rimes, qui repose sur effectivement les métaphores, les exclamations, les questions. Donc un style extrêmement lyrique, hein, très frémissant de sensibilité, dont le but est évidemment d'émouvoir le lecteur pour opérer cette transformation dont je parlais précédemment. Et grâce à l'imprimé, ces écrits spirituels vont être diffusés jusqu'au 19e et même au 20e siècle, même jusqu'à l'époque contemporaine pour certains, et vont influencer effectivement des auteurs. Par exemple, Chateaubriand, dans Le génie du christianisme, cite encore des auteurs médiévaux, et son style lui-même, d'une certaine manière, s'inspire de cette prose d'art médiévale à certains endroits. C'est le cas aussi d'auteurs comme Villiers de l'Isle-Adam, qui va citer aussi des écrits spirituels, qui va citer le pseudo Bernard de Clairvaux. Donc, cette littérature spirituelle, elle reste un modèle spirituel pour les auteurs chrétiens, catholiques d'ailleurs, et même protestants jusqu'au XIXe siècle, mais aussi un modèle d'écriture pour des auteurs, y compris qui ne sont pas forcément croyants.
Pourquoi aujourd'hui lire des écrits spirituels du Moyen-Âge ? C'est quand même deux choses qui peuvent rebuter un petit peu dans une société très matérialiste, très athée.
Alors, ce qui me semblait intéressant, c'est que quand on voit l'écho qu'a pu avoir, par exemple, l'incendie de Notre-Dame, on s'est rendu compte à ce moment-là que, croyant ou non croyant, ce patrimoine-là, il fait partie de notre culture et on ne peut pas s'en désintéresser. Et ce qui m'a frappé, c'est que le patrimoine écrit, qui sont des cathédrales de papier, si on veut, ne faisait pas l'objet d'une même attention. Et ça me semble bien dommageable parce que ces textes sont aussi beaux que les Notre-Dame dans son genre. Donc c'était la volonté de montrer que cette littérature, elle avait des choses à nous dire encore par sa beauté et puis par les questions qu'elle soulève, qui sont la place de l'homme face à Dieu, la place de l'homme face à lui-même, face à son destin. Ces textes-là posent des questions existentielles et apportent des réponses qui peuvent toujours être d'actualité.
Et c'est peut-être un support particulièrement bien choisi pour comprendre le Moyen-Âge qui apparaît totalement à rebours de l'idée que le 19e a pu en faire.
Tout à fait. Effectivement, c'est une porte d'entrée par des textes qui sont par eux-mêmes beaux et qui posent des questions importantes pour l'homme. Et donc, ce qui permet de mettre à bas certains clichés sur le Moyen-Âge, tout à fait.
Merci Cédric Giraud d'avoir répondu à nos questions sur l'ouvrage que vous venez de rééditer chez Gallimard, donc dans la collection La Pléiade. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Écrit spirituel du Moyen-Âge, dans lequel vous trouverez, chers auditeurs, 15 auteurs qui ont marqué la période médiévale, qui ont marqué ces chrétiens et qui ont formé et qui ont participé à former cette société. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute et votre fidélité, et à très bientôt pour une nouvelle édition de nos mémoires.